Alors, un module à l'Institut Philanthropos, c'est un module intitulé « Aperçu ethnologique de la tradition africaine » avec le père Germain Gazoa qui est venu spécialement de Côte d'Ivoire pour Philanthropos. Bonjour père Germain Gazoa.
Bonjour.
Alors père Germain, vous êtes donc de Côte d'Ivoire, vous êtes docteur en théologie, vous avez une maîtrise en sciences et théologie des religions, vous avez aussi un diplôme en sciences humaines. Vous êtes actuellement professeur à l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest à Abidjan et vous êtes aussi auteur de nombreux livres, notamment « Éternelle secte pour s'en délivrer », un autre livre « Dieu en danger ». Vous avez écrit aussi « Quand la souffrance devient joie », un autre ouvrage « La puissance du chapelet » et puis « Comment prier quand on est angoissé », il y a encore d'autres titres. Vous avez fait des études en Italie et vous avez aussi, je crois, été en paroisse en France. Alors, grâce à toutes ces expériences, vous pouvez nous parler de la culture africaine et puis avec un langage aussi qui est compréhensible par des occidentaux que nous sommes. Et donc, grand merci en tout cas d'avoir fait le déplacement spécialement pour ouvrir un petit peu nos yeux et nos cœurs sur les réalités de l'Afrique.
Oui, merci. Et j'aimerais tout d'abord dire merci aux responsables de Philanthropos qui m'ont fait vraiment l'honneur de m'inviter à contribuer à la formation des futurs cadres de notre monde. Et je suis d'autant plus honoré que je suis pratiquement le seul noir et cela me va droit au cœur. C'est de gaieté de cœur que je suis arrivé et que je pense pouvoir ajouter mon grain de sel à cette formation de l'humanité du futur.
Alors père Germain, j'aurais aimé vous demander en un premier temps, à l'heure où l'Afrique continue de sortir de la colonisation et n'en finit pas de trouver une place au cœur des réalités économiques et politiques mondiales, cette Afrique secouée par d'innombrables conflits, on en parle souvent, tiraillée aussi entre un certain rêve occidental et l'immense richesse de ses traditions qui sont en partie déstructurées. Vous venez nous parler de culture africaine, mais peut-on encore parler de culture africaine?
Oui. L'Afrique, c'est de bonne guerre qu'elle puisse s'intéresser à sa culture parce que l'homme est sa culture. L'homme n'est rien d'autre que sa culture. L'homme n'a pas de culture, mais il est sa culture parce qu'il s'identifie avec sa culture. Et dans le concert des nations, à un moment où on assiste, il est de plus en plus question de la globalisation, de la mondialisation. Si l'Afrique ne se réfère pas à ses bases, à son socle, à ses traditions, elle sera un peu sans archétype, elle sera sans référence sociologique, donc elle sera un peu comme perdue dans un monde de mondialisation. C'est tout à fait normal qu'elle se réfère à ses bases, à sa culture, pour mieux évaluer comment contribuer, comment participer donc à la construction de ce monde et où est-ce qu'elle doit mettre ses pieds pour ne pas se laisser phagocyter par toutes les puissances, par toutes sortes de valeurs.
Père Germain Gazoa, vous avez évoqué quelle Afrique, ou plutôt quelles Afriques. C'est une réalité très complexe. Vous pouvez nous en dire quelques mots?
Oui, du point de vue sociologique et puis anthropologique, on ne peut pas parler de l'Afrique de façon singulière, parce que culturellement l'Afrique est une complexité, donc on ne peut parler que des Afriques parce qu'il y a plusieurs cultures, il y a donc plusieurs Afriques, parce que comme je le disais tout à l'heure, l'homme est sa culture, donc cela suppose qu'il y a plusieurs entités, plusieurs domaines dans lesquels l'homme évolue et dans lesquels l'homme s'épanouit. Donc pour approcher l'homme africain, il faut donc l'approcher avec sa culture, avec ses cultures. Dans le cas de la Côte d'Ivoire, on a une soixantaine d'ethnies, donc disons une bonne cinquantaine ou soixantaine de cultures. Donc c'est souvent malaisé de parler d'une culture unique ou bien de la culture de façon unitaire. On ne peut parler que des cultures africaines, donc des Afriques. On peut parler de l'Afrique culturelle à partir de certaines constantes qu'on appelle les constantes valorisantes, à partir desquelles tous les Africains se ressemblent ou bien auxquels ils s'identifient. Donc, à partir de ces constantes-là, on peut parler d'une Afrique culturelle, c'est-à-dire des valeurs dans lesquelles tous les Africains se reconnaissent comme appartenant à un même continent. À ce niveau, on peut parler de l'Afrique.
Alors sur deux jours, une dizaine d'heures de cours, c'est un peu de ces constantes valorisantes que vous avez essayé de nous parler. J'aimerais que vous nous disiez quels sont les enjeux qui sont liés à la perception de la réalité complexe donc de l'Afrique, au moment même où il semble que les grandes puissances aient choisi d'éradiquer, d'une manière plus ou moins visible, d'éradiquer ce continent de la carte du monde.
Je crois qu'il est tout à fait loisible de parler de culture africaine aujourd'hui, et même des autres cultures, des autres nations, parce que on est dans un monde pluriel, un monde pluridimensionnel. Donc, on ne peut pas aujourd'hui penser la formation des futurs cadres de nos pays, de nos nations, sans un minimum d'ouverture sur les autres peuples. Je crois que c'est dans ce cadre-là que cette formation, ce module-là, est le bienvenu, parce que ça permet une ouverture sur le peuple africain, les tenets aboutissants de sa culture, ses valeurs, ses contre-valeurs, voir comment on peut essayer de comprendre ce peuple-là, qu'est-ce qu'on peut tirer de lui, ou bien qu'est-ce qu'on peut attendre de lui dans la perspective d'une construction saine à partir d'une cohabitation heureuse. Donc ici, il est question de savoir que aujourd'hui, l'homme ne peut plus se concevoir sans les autres hommes. Une nation ne peut plus se concevoir sans les autres nations. Et parlant de la culture africaine, ça permet donc aux Occidentaux de dire, mais tiens, il n'y a pas que du négatif, il y a aussi du positif à tirer de lui. Donc, essayons de l'aborder à partir de lui-même comme il est. Et de cette manière-là, on pourrait ensemble construire cette société.
Alors justement, Père Germain Gazoa, dans le Concert des Nations, selon vous, qu'est-ce que l'Afrique peut apporter au monde? Est-ce qu'il y a des valeurs que l'Afrique possède et dont le reste du monde serait dépourvu?
Oui, mais déjà rien que par son humanisme, l'Africain est très humain, rien que cela. Rien que par sa culture dominante, disons religieuse, rien que cela aussi, rien que la place de l'homme dans la vie de l'homme, parce que on se rend compte que du point de vue anthropologique, l'homme n'est plus ce qu'il était avant, ne vaut que celui qui est d'une certaine race ou bien qui a un certain niveau social. Donc chez l'Africain, l'être prend le pas sur l'avoir. Et c'est ça qui est très important par rapport à aujourd'hui à la logique générale qui met l'accent plutôt sur l'avoir que l'être. L'Africain montre que l'être est aussi autant important, sinon plus important que l'avoir, et c'est cela qui peut vraiment proposer au patrimoine spirituel de l'humanité, pour dire que vous voulez cheminer, si vous êtes vraiment homme, ou si vous êtes vraiment des hommes accomplis, si vous êtes une humanité vraiment intégrée, vous ne pouvez que prendre en compte l'homme dans ce qu'il est en réalité, et non dans ce que les autres puissances veulent qu'il soit. Voilà, donc ce que l'Afrique apporte, c'est cela, c'est l'être. Voilà, pour couper court, donne l'importance à l'être plutôt qu'à la voix.
Alors pour être, justement, c'est en puisant aussi dans cet univers fondamentalement religieux qu'est la culture africaine, c'est ce que vous venez de nous dire. Au cours du module, vous avez fait un certain nombre de parallèles en nous expliquant des points communs aux différentes cultures africaines, donc les traditions religieuses ou les religions traditionnelles, je ne sais pas dans quel sens il faut le dire, et puis aussi cette ouverture et ces bémols parfois qui peuvent être apportés ou ces compléments par la foi chrétienne.
Oui, c'est cela au niveau de l'inculturation, parce qu'il y a certains très culturels africains qui permettent, qui rejoignent un peu le judéo-christianisme et qui nous permettent de mieux cibler le message évangélique. C'est par exemple le cas de l'importance de l'homme, le cas de l'importance de la vie, l'importance de la vie après la vie, des esprits, etc. Donc, ce sont des valeurs, ce sont des véhicules de la traditionnalité africaine qui sont aussi des valeurs et des références sociologiques. Donc, ça nous permet de mieux orienter notre message. C'est ainsi qu'aujourd'hui, dans la plupart des diocèses, il y a une certaine alternative pastorale qui consiste à faire un effort d'inculturation du message révélé pour que l'Africain, à partir de ses propres lunettes, puisse mieux comprendre la personne de Jésus-Christ à sa portée, qui est aussi, qu'il peut aussi tutoyer, comme il tutoie son ami, son frère, etc.
Alors comment se situe justement le Dieu de la révélation par rapport au Dieu traditionnel? Je ne sais pas d'ailleurs si le Dieu traditionnel, je dois le mettre au singulier ou au pluriel, vous allez nous le dire.
Bon, disons que chez l'Africain, Dieu, il est lointain, il est inaccessible. Et il sera accessible à travers, par la médiation de ce qu'on appelle les divinités intermédiaires, les divinités titulaires, les divinités secondaires. Et bon, il y a bien des occasions au cours desquelles, ou bien dans lesquelles, il a accès au Dieu créateur tout-puissant à travers des interjections, d'accord. Mais pour le plus clair du temps, ce Dieu-là, il est tellement haut, tellement lointain, tellement grand que il ne peut pas être un Dieu domestique. Et c'est ainsi que l'Africain se fabrique lui-même des divinités domestiques, c'est-à-dire qu'une représentation des attributs de Dieu créateur. Et au niveau chrétien, on peut pas parler du polythéisme au niveau africain. Alors, donc, on dit que ce Dieu-là, qui le représente sous forme de statuettes, sous forme de d'images, de toutes sortes de fabrications de ses propres mains, ce Dieu-là qui est ainsi représenté, c'est le Dieu de la révélation. Parce que, bon, c'est vrai qu'il y a une projection de sentiments sur toutes ces fabrications humaines-là, parce qu'ils peuvent aussi tuer, ils peuvent tenter à la vie des autres, etc. Mais ils sont aussi bons. Ils sont aussi bons. Et comme chez l'Africain, toutes ces divinités secondaires ont leur origine, ils ont leur source dans le grand Dieu créateur. Et ce grand Dieu, il le désigne par des homonymes, il le désigne par certains noms, par certaines dénominations. Il est lointain, il est celui qui est au-dessus de tout, il est le créateur, il est l'incontournable. Et c'est cet incontournable-là que nous, au niveau chrétien, on appelle le Dieu de Jésus-Christ, le Dieu de la révélation, qu'on montre aux Africains en disant que, écoutez, si il n'est pas absent dans votre vie, mais seulement il n'est pas mauvais, il n'est pas méchant, il n'y a pas, ce n'est pas un dieu manichéen, hein, avec une coexistence du mal et du bon, hein, si vous êtes converti, il faudra laisser votre côté mauvais qui est en fait une sorte de projection de sentiments. Voilà. Donc l'Africain a la connaissance, avant même qu'on lui prêche le christianisme, il avait déjà la connaissance du Dieu révélé, du Dieu de Jésus-Christ, qu'il priait de façon inconsciente, sans nécessairement le connaître, mais il le priait quand même.
Alors, Père Germain, le christianisme qu'a-t-il amené par rapport aux religions traditionnelles? Vous avez à un moment parlé, il me semble, de libération.
Le christianisme, ce qu'il a amené, ça paraît un peu complexe comme question, parce que je dirais que non, le christianisme n'a rien amené dans un premier temps. N'a rien amené parce que l'Africain savait à travers, parce qu'il y a les ancêtres dans la vie de l'Africain, les esprits, ce sont des instances qui régularisent un peu la vie morale et sociale. Voilà. Donc, au nom de ses ancêtres, je ne peux pas tuer parce que les ancêtres n'aimeraient pas ça. Je ne peux pas chercher la femme de quelqu'un. Je ne peux pas voler. Voilà, il y a tous les 10 commandements là, on les retrouve au niveau africain. Bon, maintenant, ce que je disais, comme il y a une projection de certains sentiments humains qui ne sont pas nécessairement bons, le christianisme lui a seulement permis de ne pas avoir recours maintenant à ces sentiments. Sinon, quand on dit quand le christianisme parle des 10 commandements de Dieu, aime ton prochain comme toi-même, ça existe au niveau africain. Quand le christianisme dit ne pas chercher la femme d'autrui, mais ça existe. Il y a même des cérémonies d'expiation, des cérémonies propitiatoires. Lorsque on parvient à coucher avec la femme de quelqu'un, de son cousin, ou bien à une pollution de la nature, etc., il y a des cérémonies pour expier cela. Donc, le christianisme dit tout simplement à l'homme que l'homme-là, ton prochain, c'est toi-même. Voilà, c'est, à mon avis, la grande révolution. Ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse là, faut pas le faire à l'autre. Bon, c'est vrai que l'Africain, de façon morale, il a ça déjà dans sa vie, mais on lui dit tout simplement ce que le christianisme lui apporte, c'est pour lui dire que ce que tu fais là, c'est bien. Tu es déjà au ciel avec ça. Voilà. Lui, il avait peut-être de doutes en essayant de distinguer l'au-delà et puis le ciel. Mais le christianisme lui dit, ce que tu appelles l'au-delà, c'est le ciel. Ce que tu es en train de faire en posant des actes vertueux, des actes qui ne sont pas dénudés de toute intelligibilité, etc., ce sont des actes agréés par Dieu. Vas-y. Vous voyez? Et puis, quant à la vie après la vie, ça existe déjà chez l'Africain. Il y a des saints. Il y a les canons de sainteté au niveau de l'Africain. Mais le christianisme lui fait prendre conscience que ces actes qu'il pose là, ce sont des actes bons. Et que ce sont ces actes-là qui peuvent le sauver. Donc, il croit maintenant encore plus à la valeur, aux vertus des actes qu'il pose. Et c'est ce que le christianisme a révélé.
Est-ce que par rapport à certaines peurs, vous avez mentionné les sorciers, par exemple, donc les sorciers qui ont une action négative, des peurs de maléfices ou d'empoisonnement, des choses comme ça, est-ce que la foi chrétienne n'amène pas une certaine libération?
Oui, la foi chrétienne amène une libération, c'est-à-dire que si tu as foi en Jésus, si tu as une espérance quasi personnifié, personnalisé, bon, tu peux pas être atteint par tout cela. Mais au niveau africain, on dit aussi que si je n'ai rien dans ma bouche, c'est-à-dire que si je n'ai pas comploté contre la mort de quelqu'un, il peut pas m'en vouloir. Bon. Ou bien si j'ai un cœur pur, où il n'y a pas de place pour la haine, ou bien un cœur qui n'en veut à personne, toutes ces pratiques-là ne peuvent pas m'atteindre, vous voyez. Donc déjà, on a des correspondances au niveau africain, seulement au niveau christianisme, la libération, c'est vrai, apportée par Jésus-Christ, il faudra maintenant approfondir cette libération, parce que le christianisme dit que Jésus-Christ est venu vous libérer. Bon, maintenant, le problème qui se pose, de quelle libération il s'agit? Parce que la pensée africaine est pratico-pratique. Est-ce une libération où Jésus constitue une menace culturelle? Parce que il dit à l'Africain de se débarrasser de toute sa culture, ou bien une guérison? Une guérison. Et c'est cette guérison-là qui est visée, c'est-à-dire actuellement, il y a le sida, il y a toutes sortes de maladies, il y a la peur du sort, de la vie, la pauvreté. Les nouvelles tendances de la théologie africaine, c'est de faire en sorte à ce que Jésus soit le guérisseur, que Jésus soit vraiment le libérateur, mais tous azimuts. Voilà, c'est à ce niveau-là. La nouveauté du christianisme doit être à ce niveau-là, et je dirais même que c'est à ce niveau. Et ça, c'est un enjeu pastoral qui est en quelque sorte un défi, quoi, à relever. Et on doit creuser davantage pour que le Christ soit vraiment quelqu'un qui signifie quelque chose à l'Africain, qui a un sens pour l'Africain, et quelqu'un qui est censé exister comme le dernier recours, ou bien le recours par excellence pour l'Africain. Voilà, en cela, le christianisme pourrait apporter quelque chose d'efficient, quelque chose d'essentiel.
Benjamin Gazoa, vous connaissez assez bien l'Europe aussi, puisque vous y avez vécu un certain nombre d'années pour vos études et puis en paroisse aussi. Qu'est-ce que vous aimeriez nous dire avec votre regard d'Africain, justement? En quoi l'Europe est-elle le plus malade, ou qu'est-ce qui vous a le plus choqué ici, et qu'est-ce que vous pensez que la découverte de l'Afrique pourrait nous apporter?
Bon, disons que Moi, je conçois d'abord l'homme dans son contexte. Au début, je ne comprenais pas bien l'Européen parce que je suis venu avec mes paradigmes sociologiques, mes références sociologiques. Donc, j'avais de la peine à comprendre qu'un être humain puisse se comporter de la sorte, de ce... Bon. Mais petit à petit, j'ai eu à comprendre. Bon. Alors, ce que je pourrais dire, s'il faut y répondre à la question, c'est au nom de l'homme. C'est l'homme est unique. Il n'y a pas deux hommes. L'homme est unique. Dieu l'a créé avec une seule valeur, c'est qu'il a l'image de Dieu. Voilà. Donc, partout où il est, qu'il soit de telle ou de telle autre race, l'homme est image de Dieu. L'homme a une origine sacrée. Donc c'est au nom de cela que je pourrais peut-être répondre pour dire que je pense qu'il faudra faire attention parce que ce qui peut tuer les paradigmes essentiels de l'homme, c'est-à-dire les références essentielles de l'homme, ce qui fait qu'il est homme, ce qui pourrait tuer ça, c'est le matérialisme. Parce que le matérialisme a ses dérivés qui sont l'individualisme, la course aux intérêts, la perte du sens même de l'homme, de la place de l'homme dans la vie, parce qu'on a Dieu maintenant que pour le matériel. Ça pourrait aller jusqu'à tuer même le sacré qui est dans l'homme. Et comme l'homme est lié au sacré, là, à Dieu, qui tue l'homme tue Dieu aussi, et qui tue Dieu tue l'homme. Donc la morale chrétienne est essentiellement anthropo-théocentrique, c'est-à-dire centrée sur l'homme et centrée sur Dieu. Si on parvient à perdre le sens de l'homme, c'est fort possible, de façon inéluctable, qu'on perde aussi le sens de Dieu. Et c'est à ce niveau-là que je voudrais tout simplement dire de faire attention. Il y a bien sûr le matériel, c'est important, parce qu'on en a besoin pour vivre, mais le matériel peut pas être déifié. Ça peut pas prendre la place de l'homme. Je crois que tout tourne autour de ça. Que ça soit les guerres, que ça soit les incompréhensions, que ça soit la saignée à laquelle on assiste au sein de l'Église, etc., c'est que il y a une grande partie de la place du matériel qui prend le pas sur le spirituel et sur l'être. Voilà, c'est un peu ça.
Père Germain Gazoua, quand je suis passé rapidement en Afrique à une période, ce qui m'a frappé le plus, c'était de voir la capacité d'amour, enfin j'aurais envie de traduire ça comme ça, au milieu de conditions de vie pas forcément faciles, en brousse, pas de grande misère, mais comment l'Africain vit au milieu des conflits, des guerres qui secouent son pays, ou de la pauvreté qui est le lot permanent, chaque jour on se demande parfois ce qu'on va manger.
Oui, c'est d'abord de façon dramatique, hein, parce que on n'est pas des extraterrestres, c'est-à-dire que il le ressent de façon douloureuse, hein, il le ressent de façon dramatique, mais il n'a que ses yeux pour pleurer, il n'a plus d'autre recours que lui-même. Donc là, on parle de survie, hein, on parle de survie et non de vie. Et là, il est obligé de se cantonner sur une seule force, sur un seul recours qui est Dieu. C'est la seule valeur qu'on ne peut pas lui arracher. C'est la seule référence à laquelle il tient et dont il est au moins sûr qu'il mourra avec ou bien il partagera cette vie-là qui lui vient de Dieu. Donc, chez l'Africain, bon, tout ce qu'il a vient de façon providentielle de Dieu. Donc, il ne réagit pas en résigné, ni en stoïque, ni en stoïcien, mais il réagit comme un être mature, qui essaie de supporter tout cela et se faire une force morale, une force de caractère pour pouvoir résister. Et c'est ainsi que lui, sa spiritualité, c'est la spiritualité du moment. Il prend la vie comme elle vient, il vit au mieux le peu qu'il a à vivre. il sait que son espérance de vie est très courte du fait de toutes les calamités là. Donc sa vie, il la prend comme elle vient et il la vit de façon profonde, de façon même émotionnelle. Voilà. Donc il est essentiellement joie parce qu'il sait que c'est pas quand il sera malade qu'il va être joyeux, pendant que le peu de temps qu'il est encore en vie, il doit vraiment le manifester. Voilà, c'est cela, l'Africain. Et puis, il fait confiance. Et c'est ça qui le fait vivre. Une espérance un peu personnifiée. Voilà, il tient beaucoup à cela, parce que c'est pas quelqu'un qui se laisse désarçonner facilement, parce que il s'est formé au contact de son histoire qui est au demeurant dramatique. Il s'est formé au contact de tout ce qu'il vit au quotidien. Donc, c'est vraiment un moral à toute épreuve. Et ça lui permet de positiver, de voir la vie, l'avenir de façon positive, parce que il sait qu'il existe un faiseur de l'histoire, Dieu qui fait et défait l'histoire. Donc en ce Dieu-là, il met vraiment sa foi et son espérance. Et c'est ça qui le fait vivre.
On aurait bien besoin effectivement de se mettre aussi à cette école, je pense. Père Germain Gazoa, grand merci pour ce partage et bon retour aussi en Côte d'Ivoire.
Oui, merci, et je souhaite que cette école parte de l'avant et que les gens arrivent vraiment à la découvrir, parce que dans les différents modules, dans les différents cours là qui sont donnés ici, je remarque qu'il y a vraiment un souci de connaître l'homme et son environnement, son milieu, et ça pourrait contribuer un tant soit peu à une société moins inégalitaire et une société beaucoup plus identitaire. Et à ce niveau-là, je dis merci et bonne continuation.